De retour. On démarre. Bonjour. Voilà, on vous retrouve sur les ondes de Radio Galère après la mi-temps estivale. Je remercie Louise qui est venue me dépanner in extremis dans la cabine technique et on va faire un point d'actualité sur une actualité qui... Alors, tout le monde n'est pas parti en vacances. Alors, on sait que les parlements ont des périodes où ils ne travaillent pas, où ils se promènent, etc. Mais en fait, les exécutifs, pratiquement tous les exécutifs, c'est-à-dire tous les gouvernements, les présidents de tous les pays les plus importants et même les moins importants, ont été sur la brèche pendant cette... ce qui n'a pas été, évidemment, une trêve d'été. Pas de trêve au sens militaire, puisqu'il y a eu zéro cessez-le-feu, pas de trêve en Palestine, pas de trêve à Gaza, pas de trêve en Ukraine, pas de trêve au Soudan, enfin j'en passe, et d'autres. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'arrêt de l'actualité internationale, contrairement à d'autres périodes. Ce qui veut dire, c'est simplement la traduction du fait, c'est une année en ce sens exceptionnelle, en ce sens que les enjeux et les rapports de pouvoir se déplacent sous nos yeux, et ils se déplacent pas en août et pas en juillet, ou en juillet et pas en août, ils se déplacent tout le temps, et quasiment tous les jours. C'est-à-dire qu'on a chaque jour de cette période extrêmement dense des événements qui ont donné une orientation à des événements à suivre, qui ont été pour certains démentis dans les jours suivants ou dans la semaine suivante, et qui pour d'autres ont été confirmés. Donc voilà dans quoi, dans quelle patte on est obligé de travailler pour essayer de sortir quelques pépites pour vous les donner en mode de réflexion, parce que j'imagine et je sais, et ce qui est tout à fait normal, c'est que quand on est en train de se balader en montagne avec un guide ou on est en train de faire un crawl pour traverser une baie, bon, on va pas regarder ce qui se passe quelque part à Pékin ou à l'ONU, etc. Et pourtant, ils n'ont pas arrêté un instant. Alors on va repartir sur les plus gros événements qui se sont produits et qui concernent, enfin, oui, plus le dossier ukrainien que voilà. Roselyne arrive, que je salue, qui a eu très chaud. Il fait encore très chaud à Marseille aujourd'hui. La température baisse un peu la nuit, c'est beaucoup mieux, mais il fait encore très chaud dans la journée. Bon, et l'eau est tout à fait baignable, je dis ça, pour ceux qui ont des restes de vacances à passer dans nos contrées, sous nos cieux. Donc l'événement qui me paraît central, c'est une rencontre qui a eu lieu, alors ça vous en avez parlé parce qu'on ne pouvait pas ne pas en parler, mais vous avez peut-être suivi ça de plus ou moins près. C'est la rencontre qui a eu lieu entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Alors c'est arrivé à un moment très particulier parce qu'il faut se souvenir qu'à la fin du mois de juillet, Donald Trump avait fait comme il fait d'habitude, il avait émis un ultimatum en disant « s'il n'y a pas un cessez-le-feu dans 8 jours, je me fâche ». Alors il n'en dit jamais plus, mais quand il se fâche, les Iraniens peuvent en dire quelque chose. En général, ça ne se passe pas très bien. Alors ça prend soit une forme administrative ou commerciale, c'est des sanctions, des droits de douane et tout, soit carrément, c'est un bombardement. Donc effectivement, on attendait cette échéance du jour où il avait dit « à partir de ce jour-là, je me fâche ». Eh bien, il s'est pas fâché. Il s'est pas fâché parce qu'entre-temps, il y a eu un accord pour qu'il y ait une rencontre entre lui et le président de la Russie. Alors, dès l'instant où ça a été annoncé, effectivement, on a compris qu'il ne se fâchait pas puisqu'il avait obtenu un rendez-vous avec le président russe, où il avait arraché un rendez-vous au président russe, où le président russe avait compris qu'il fallait l'apaiser en disant « bon, on va essayer de s'expliquer clairement sur ses objectifs de cessez-le-feu, pas cessez-le-feu et tout ». Donc tout ça a fait qu'il y avait eu des contacts, des coups de téléphone entre les deux présidents eux-mêmes, et puis sans doute des assistants à l'entour, aussi bien au Kremlin qu'à la Maison-Blanche, pour finalement fixer un rendez-vous avec une date. Alors après, il y a eu un petit flottement, une petite période d'incertitude sur le lieu de cette rencontre. Alors beaucoup d'hypothèses ont été formulées, y compris par Poutine lui-même. Il disait, ça pourrait être ici, ça pourrait être là. Il avait dit les Émirats arabes unis. Enfin, il y avait différentes idées qui circulaient. Et bien entendu, ça faisait la joie des journalistes qui disaient, on a quelque chose à se mettre sous la dent, parce que la rencontre est annoncée, on ne sait pas quel est son ordre du jour, il n'a pas été annoncé, donc on a à se mettre sous la dent que l'information sur le lieu. Et je m'arrête là-dessus parce qu'effectivement, les journalistes, par rapport à ce type d'événement et la rapidité de la succession des événements, sont toujours en train un peu de se battre les flancs, de dire qu'est-ce que je vais dire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à mettre de concret, de solide, et donc je remplis l'espace médiatique avec des à peu près, des éventuellement. Il se pourrait bien qu'on entende dire que la rumeur dit au Kremlin que, la rumeur dit à Washington que, bon, ils meublent l'espace médiatique parce qu'ils sont là pour ça, et en fait souvent ils n'ont pas grand-chose à dire. Et ils avaient tellement peu de choses à dire que l'annonce du lieu de la rencontre a été une surprise à peu près totale. Alors pas pour les deux intéressés, bien entendu, puis ça a dû être négocié. Ça a été une surprise totale. Et ça a eu lieu donc en Alaska. Alors je situe l'Alaska, donc qui est une des 50 républiques de la Fédération des États-Unis, qui a ceci de particulier qu'elle est coupée des États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a entre les États-Unis, les 49 États et l'Alaska, un gros morceau qui s'appelle le Canada, rien que ça. Et donc l'Alaska, c'est un petit bout du territoire à l'extrémité ouest du Canada, qui est un ancien morceau de l'Empire tsariste. C'est ça qu'il faut avoir en tête et qui a peut-être joué sur le choix du lieu. Ancien morceau de l'Empire tsariste, car il faut savoir que dans les années du milieu du 19e siècle, l'Empire tsariste, qui avait des ambitions, qui était un impérialisme en formation, un petit impérialisme, mais qui avait quand même des ambitions, et qui avait des ambitions du côté de son extrême orient, donc du côté de la Sibérie et au-delà, avait franchi le détroit de Bering et s'était installé en Alaska et même plus au sud, sur la côte ouest des États-Unis, au milieu du 19e siècle. Je ne rentre pas dans le détail des dates, mais mettez-vous dans cette idée qu'on ne nous a pas beaucoup raconté, qu'il y avait donc des soldats du tsar sur la côte californienne au milieu du 19e siècle. Alors ils ne sont pas restés, le tsar avait eu des difficultés, il est reparti, et à un moment donné, l'Empire tsariste a vendu aux États-Unis le territoire de l'Alaska, je crois que c'était en 1867. Et c'est resté ce que c'est-à-dire en fait un morceau de Sibérie de l'autre côté du détroit, mais qui a beaucoup de points communs et qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a, autour du détroit de Bering, qui fait une trentaine de kilomètres. C'est le même pays, c'est le même climat, c'est les mêmes conditions météorologiques, c'est la même faune, c'est la même flore, etc. Bon, c'est une espèce de bout de Russie qui est de l'autre côté du détroit. Alors c'est un détroit dont on n'a pas beaucoup parlé dans l'histoire, mais qui a quand même rendu différents services, puisqu'il faut savoir que ce détroit a été utilisé, donc passage très facile, une trentaine de kilomètres, a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les transports de matériel que les États-Unis fournissaient à leur allié, l'URSS, pour la guerre contre le Reich. Effectivement, c'était pour les États-Unis le trajet le plus court possible, 30 km, une petite traversée en mer, après aux Russes de se débrouiller pour le transporter sur le front. Bon. Et donc l'Alaska a été choisi, et donc la principale ville donc, de cet État fédéral, qui est Anchorage. Et après, où? Alors, où? Alors, effectivement, en Corée, l'Alaska, c'est un peu le petit cousin de province des 49 États. Il n'y a pas de grands hôtels, on ne peut pas réserver à Hilton, à Hyatt, etc. Et il a fallu trouver des locaux militaires. Alors, très très vite, puisque tout ça s'est décidé en quelques jours, et donc, on a improvisé une réception dans des locaux de l'armée américaine, qui évidemment est sur place, le nez sur l'adversaire soviétique d'abord, et puis russe maintenant, mais pas plus. Donc, c'était pas le grand jeu, ce qu'on peut imaginer, il n'y avait pas des traiteurs avec du saumon frais, etc. Bon, on a improvisé. On a improvisé, mais ça, c'est l'aspect intendance dont on n'a pas beaucoup parlé. Ce qui a été pas improvisé, c'est la façon dont Trump, qui était la puissance invitante, il accueillait sur le territoire des États-Unis, il accueillait le président de la Russie. Comment allait-il traiter son hôte? Ils étaient d'accord pour se rendre à cet endroit-là. Ils étaient d'accord pour parler d'éventuellement des cessez-le-feu ou d'autres choses. Je vais y revenir. Et en fait, il se trouve que Trump a fait, avec l'accord certainement de la présidence russe, une mise en scène exceptionnellement étonnante. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une coordination entre les deux avions. Vous imaginez que Trump était parti le matin de Washington pour arriver à cet endroit-là et il a quelques heures de vol, je crois que c'est 7-8 heures de vol. Bon, Poutine avait fait pareil. Alors il avait fait un peu plus souple, c'est-à-dire qu'il s'était arrêté en route dans une république d'Extrême-Orient de la Fédération de Russie, mais il était prêt. Alors déjà, on a senti une atmosphère assez étonnante, c'est-à-dire que passer cet ultimatum où tout d'un coup, peut-être Trump allait bombarder la Russie, on ne sait pas ce qui allait se passer, tout d'un coup, il y avait une coordination parfaite, les deux avions devaient décoller à la même heure, les deux présidents devaient sortir l'un après l'autre, mais d'une façon parfaitement coordonnée sur le tarmac de l'aéroport de Anchorage, et devaient se rencontrer. Alors déjà là, c'est quelque chose d'inhabituel, et en fait, il y avait deux tapis rouges. Alors j'insiste là-dessus parce que la symbolique officielle, diplomatique, elle est forte. C'est-à-dire qu'un tapis rouge déroulé à la sortie de l'avion donc russe d'où sortait Poutine, ça veut dire une visite officielle d'État, hein, avec tout ce qu'il y a. Alors il n'y avait pas de garde militaire, il y avait seulement deux grands tapis rouges, et on a vu ces deux personnages converger, l'un sur le tapis rouge américain, l'autre sur le tapis rouge russe, converger vers un point de rencontre. Ces deux tapis rouges étaient à angle droit l'un de l'autre, et à un moment donné, ils se sont retrouvés au croisement de ces deux tapis rouges. Donc il y avait là une symbolique forte, puisqu'il s'agissait d'une réception quasiment d'égal à égal. Même dispositif, très sobre par ailleurs, je ne dis pas de garde militaire, pas de salut, pas de drapeau et tout, mais les deux présidents en titre, reconnus comme tels et légitimes, étaient là et se serraient la main à la rencontre de leurs deux tapis rouges. Et puis après, c'est encore plus amusant, parce que après, il s'agissait d'aller sur le lieu de la conférence, donc dans ces fameux locaux militaires, et Trump a mis à la disposition de Poutine sa voiture blindée personnelle, qui ne met pas à disposition de tous ses visiteurs, loin s'en faut. Et donc là encore, on a vu qu'il y avait un traitement très très favorable à l'accueil du président russe. Et après, ils se sont rencontrés. Alors ils ne se sont pas rencontrés tout seuls, mais en fait, les délégations étaient très limitées, puis c'était 3-3, ou 3-3, puis ce n'était pas vraiment contre. Donc il y avait, côté russe, le ministre des Affaires étrangères et un conseiller spécial, le conseiller pour les affaires diplomatiques donc de Poutine. Et de l'autre côté, il y avait l'émissaire, le milliardaire ami de Trump, donc Witkoff, et le secrétaire d'État, donc Marco Rubio. Et ces six personnes se sont enfermées un certain temps dans un local, avec probablement des interprètes, on n'en a pas su beaucoup. Et ils sont sortis de là en faisant état d'un contact agréable, des échanges de vues sur la situation et tout. Et on a compris quand même, petit à petit, parce qu'on les a fait, on a fait décortiquer le contenu de la séance, parce qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel commun, chacun a fait un petit commentaire, on a compris quand même, a posteriori, que la question du cessez-le-feu avait été totalement évacuée. C'est-à-dire qu'en fait, la grande innovation de cette rencontre, c'est que 15 jours avant, Trump était prêt à dire « s'il n'y a pas un cessez-le-feu, je vous bombarde hein, », et 15 jours après, donc après Anchorage, ça, c'était totalement disparu. On n'en parlait plus. Ce qui voulait dire, et là, petit à petit, on a vu des commentaires côté russe, c'est-à-dire ce qui voulait dire que dans cette explication, les yeux dans les yeux, j'allais dire, la délégation russe a fait comprendre que le cessez-le-feu, ça ne servait à rien, puisque de toute façon, eux avaient fait tous les cessez-le-feu et que les Ukrainiens ne les avaient jamais respectés, donc ils ne voulaient plus jouer à ce jeu-là du faux cessez-le-feu qui est unilatéral. Et cette leçon-là, alors ce n'était pas la première fois qu'il le disait, mais pour la première fois, c'est rentré dans les oreilles de la délégation des États-Unis. Ils ont compris qu'effectivement, et ils l'avaient vu eux-mêmes, qu'effectivement le gouvernement ukrainien ne respectait pas les cessez-le-feu qui étaient annoncés. Et donc, ils ont admis qu'effectivement, la question de la cessation des hostilités, je ne parle pas de la paix, mais de la cessation des hostilités, était un processus plus long, qui nécessitait des négociations, et qu'on était rentré dans cette période-là. Donc il n'y avait pas de crise, les États-Unis ne menaçaient plus de quoi que ce soit. Le président des États-Unis avait entériné le fait que la cessation des hostilités sur le sol ukrainien supposait un accord en bonne et due forme avec la Russie, un accord qui règle les problèmes de fond sur ce que c'est que cette crise ukrainienne. Alors on revient à toute une analyse que j'ai déjà développée, que vous connaissez, mais c'était bien ça. Et ça a été acté par la délégation états-unienne. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème ne peut pas se régler comme ça. On a même eu un commentaire discret de la Chine qui a dit « Les problèmes compliqués ne se règlent pas à coup de tweet ». C'était leur façon de faire un petit clin d'œil à l'opinion internationale. C'était un très bon résumé de la situation. Ça voulait dire que Trump avait fini par comprendre, lui ou Witkoff, ou peut-être J.D. Vance, je ne sais pas lequel de l'entourage, avait fini par comprendre que ce n'est pas en hurlant « cessez-le-feu » ou « paix » demain matin qu'on y arrive. Bon. Donc c'était, j'allais dire, Trump devenait un grand garçon raisonnable, ou essayait de l'être. C'est ce qui s'est avéré par la suite. Mais ça supposait de dire à Zelensky, maintenant, voilà où on en est. C'est-à-dire que le cessez-le-feu, c'est pas la peine de trépigner, de faire le fou, de courir le monde pour dire qu'il faut un cessez-le-feu. Maintenant, il va falloir passer à des vraies négociations. C'était le but de l'invitation que Trump avait envoyée à Zelensky, qui s'est précipité à Washington pour bien entendre le message. Alors la différence entre la réception donc de Zelensky à Washington en ce mois d'août et la réception de Zelensky à la Maison-Blanche au mois de février, c'est que d'une part, Zelensky a été poli, c'est notable, parce qu'il sait ne pas l'être, il était correctement habillé sans avoir mis vraiment une cravate et une chemise blanche, enfin il avait une veste profonde. On lui avait soufflé dans l'oreille en disant que, et d'ailleurs Trump s'était pas gêné parce que Trump ne se gêne pas, lui avait fait des observations sur sa tenue. Et donc il voulait tellement être gentil, souriant avec Trump, qu'il avait mis effectivement un costume pour faire plaisir au patron. Ce qui fut fait. Et donc Trump a dû lui faire passer le message en disant ben, il faudra y arriver, et puis les cessez-le-feu ne servent à rien, etc. Il fallait ensuite faire passer ce message au plus énervé des énervés. C'est-à-dire que on peut dire que Zelensky et le gouvernement ukrainien sont des énervés, c'est-à-dire ils veulent pas arrêter la guerre, mais il y a des gens qui les poussent à ne pas arrêter la guerre, et ces gens-là, ce n'est plus Trump lui-même, c'est l'Union européenne. Enfin, et encore, pas l'Union européenne, certains Européens. Et donc ça s'est poursuivi, donc le dialogue entre Trump et Zelensky s'est poursuivi par une réception dans la Maison-Blanche, dans un salon de la Maison-Blanche, d'une délégation européenne. Alors qu'est-ce que c'était que cette délégation européenne ? Ben, en fait, c'était complètement improvisé, c'est-à-dire c'était la délégation de ceux parmi les 27 pays de l'Union européenne, plus la Grande-Bretagne, qui veulent absolument continuer la guerre et éviter que la Russie leur fasse du mal, je reviendrai sur ce thème-là, et qui étaient reçus donc par Trump pour lui demander de continuer la guerre, en gros, et de ne pas arrêter, qu'il fallait battre la Russie, qu'il fallait pas ceci, pas cela. Enfin, ils étaient à la limite plus radicaux dans leurs propos que ne les Zelensky lui-même, ou au moins aussi radicaux, sans en avoir les moyens, parce qu'on peut dire Zelensky il est radical, mais il est quand même sur le terrain, enfin son armée est sur le terrain. Et les autres en rajoutaient, il faut absolument continuer. Bon. Ils ont été extrêmement déçus. ils ont été extrêmement déçus parce qu'ils n'ont pas du tout obtenu un feu vert officiel de Trump pour ce faire. Et on a quand même vu qui étaient les plus énervés des Européens « va-t'en-guerre ». Alors, au premier rang desquels je mets, parce que je ne peux pas le pas le mettre, Emmanuel Macron, clairement un des plus énervés, et je reviendrai sur ce qu'il a dit après. Il y avait évidemment le chancelier allemand, Merz, il y avait le premier ministre britannique, Starmer, qui tout en n'étant pas de l'Union européenne est un pouce au crime très très connu, il y avait le président de la Finlande, qui est un acharné anti-russe, il y avait Madame von der Leyen, l'inévitable, il y avait le président de la Commission européenne actuelle, qui est dans l'exercice tournant, Monsieur Costa, président de la République portugaise, il y avait le secrétaire général de l'OTAN, l'ineffable Monsieur Rutte. Bon. Et ces braves gens ont bien compris que leur position n'était pas celle tout à fait de la Maison-Blanche. C'est-à-dire que on leur a dit, enfin je pense que Trump leur a dit, bah, écoutez maintenant, on a admis qu'il fallait poursuivre des négociations, mais que c'est pas comme ça demain matin qu'on dit on arrête, c'est la paix, etc. Alors, ils l'ont entendu, mais ils ont aussi été confrontés, et ils le sont, et nous le sommes aujourd'hui, au fait que quand Trump, en Alaska, a dit à Poutine « j'ai compris qu'il fallait négocier et que c'était un processus de plus long terme, parce que c'est une affaire compliquée, comme disent les Chinois, ça se règle pas avec un tweet ou deux tweets », il l'a compris lui. Le problème, c'est que tout le monde aux États-Unis, je ne veux pas parler des 350 millions d'habitants, tout le monde dans les cercles du pouvoir à Washington ne veut pas l'entendre. C'est-à-dire que Trump fait, comme il fait souvent, il part tout seul, parce que porté par une idée qui est ce qu'elle est, et puis, en fait, il s'aperçoit qu'après, l'appareil ne suit pas, et qu'il y a même, on lui fait des enfants dans le dos, on lui complique la vie, ou même on lui sabote le travail. Et donc on est dans cette période maintenant, et ça va, je pense, durer un certain temps, puisqu'après ces grands mouvements diplomatiques, on est rentré depuis une bonne semaine dans une espèce de flou. Alors c'est pas le calme, mais c'est un peu flou, parce qu'il y a des idées contradictoires qui circulent, des petites annonces. Les États-Unis vont envoyer des missiles en Russie, en Ukraine, pour avec des missiles de moyenne portée qui pourraient toucher Moscou et Saint-Pétersbourg, etc. D'autres le démentent. Les Allemands font la même chose, mais ils disent non, mais on les a pas envoyés, mais on va les envoyer, vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin, on est dans ce flou-là, ce qui veut dire que les rapports de force au sein de l'appareil politique des États-Unis ne sont pas stabilisés. C'est-à-dire que Trump a fait une échappée dans le sens de la détente. Alors, non pas par amour de la paix, je ne pense pas qu'il ait un amour de la paix. Trump ne veut pas perdre la guerre d'Ukraine. Hein. Donc, à la limite, il veut bien que les Européens la perdent, à son nom, mais il ne veut pas la perdre lui, parce que ça ferait mauvais genre, ça serait la réédition de Kaboul, ça serait la réédition de l'Irak. Bon, donc, pas possible. Non. Donc, il faut qu'il essaye de recentrer l'actualité politique sur autre chose que la question ukrainienne. Là, ça, c'est un petit jouet pour les Européens, on va les faire jouer. Bon, donc, on est dans cette période de flou, où les États-Unis n'ont pas de position claire, on a des annonces contradictoires d'un jour à l'autre, donc je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, sur le type d'armement, sur le type de financement. Et puis, on a par contre des réactions de plus en plus claires du camp européen. Alors, le camp européen, je précise bien, ceux qui étaient à Washington, ce qui n'engage pas les 27, parce qu'apparemment, il n'y a pas une... C'est pas parce que Mme von der Leyen était là qu'elle avait l'accord des 25 autres ou des 24 autres. Il y a deux pays qui manifeste de l'opposition officielle à la poursuite du soutien à l'Ukraine, qui sont officiellement, ils l'ont dit, la Hongrie et la Slovaquie, mais qui vont pas plus loin que ça, qui n'osent pas sortir, et puis ils sont trop petits, pas assez costauds pour sortir du jeu. Donc on a une Union européenne qui est déliquescente en tant que position internationale cohérente, et qui, sur un autre aspect, l'est encore beaucoup plus, je vais parler de l'aspect économique. Voilà donc la situation qui amène Emmanuel Macron alors, à aller jusqu'à la caricature, puisque pour montrer qu'il est prêt, pour montrer qu'il est prêt à continuer la guerre contre la Russie, c'est tout à fait clair, au nom des intérêts de l'Europe, il est allé faire une espèce d'interview bizarre avec un journaliste de ses amis, où il a parlé, écoutez bien le terme, il a parlé de « la Russie est un ogre ». La Russie est un ogre. Alors on a un président de la République qui devient un auteur de bande dessinée pour enfants, hein, qui nous prend pour des demeurés ayant 10 ans d'âge. La Russie est un ogre, elle va tout dévorer. Alors, j'allais dire, quand on a un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires, tout ce qu'il faut, etc., ça tient pas debout, mais ça veut dire que c'est un état de, c'est pas d'effondrement mental, intellectuel, pour qu'un président de la République, qui a quand même la maîtrise de l'arme atomique, c'est ça qui me fait froid dans le dos, ce type qui parle d'un ogre, a le doigt sur le bouton, comme on dit. Alors, c'est simplificateur, d'ailleurs, mais il est quand même à la tête d'un armement atomique. Et s'il se met à raisonner en l'ogre, je défends mes petits-enfants contre l'ogre et tout, on peut avoir affaire à une décision de fou. Alors, il y a un entourage, il n'est pas tout seul, il y a un état-major et des soldats, mais enfin, l'état de déliquescence mentale de cette équipe gouvernementale est arrivé à un point très très important. Ce qui est dommage, et j'en arrive à parler de l'actualité française, ce qui est dommage, c'est qu'il se constitue petit à petit, il y a une tentative de constituer un front d'opposition par rapport au gouvernement Bayrou et par rapport à sa politique d'austérité. Ça, on a les annonces maintenant, c'est exactement où on va, etc. Et on annonce une grande manifestation de rue pour le 10 septembre, on annonce des soutiens ici et là de différents syndicats, enfin c'est encore pas très très clair, mais c'est un peu confus comme démarrage, mais on annonce ça, mais en fait, à aucun moment dans ces prises de position sur le budget d'austérité de M. Bayrou, on explique qu'on est à la remorque de cette politique qui consiste à envoyer encore des sous à M. Zelensky, à acheter des armes aux États-Unis pour les envoyer ensuite gratuitement à M. Zelensky, etc. Et donc, on ne fait pas le lien entre les deux aspects. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une politique, celle de l'Élysée, de Macron, avec son ogre et ses jeux, et puis le pauvre, alors je veux dire, le pauvre Bayrou, je ne le plains pas, il a bien voulu y aller, mais lui qui est là pour balayer la cour, pour faire un peu le ménage, et à qui on a dit, il faut faire 50 milliards d'économies. Le résultat, alors, c'est le résultat, il a été tiré, enfin, la leçon a été tirée, non pas par Macron lui-même, mais par M. Merz, le chancelier allemand. Le chancelier allemand qui, tout benoîtement, je crois qu'il y a 48 heures, a dit, de toute façon, l'état social à la mode britannique, à la mode allemande, c'est plus possible, on arrête. Alors, ça veut dire, alors, il n'a pas donné plus de détails, mais quand vous dites, vous êtes chancelier, donc je rappelle que c'est pas un gouvernement présidentiel, le chancelier a tous les pouvoirs. Quand vous dites que l'état social c'est fini, ça veut dire que vous êtes prêt à supprimer les allocations chômage, la sécurité sociale, les allocations familiales, enfin tout l'état social disparaît. C'est très très grave ce propos, c'est très très grave parce qu'il dit pas pourquoi, et pourquoi c'est en fait pour financer la campagne militaire contre la Russie, l'envoi de missiles et peut-être de troupes sur le sol ukrainien, pour voir, bon. Et puis, le fait que, quand on dit ça et qu'on est chancelier de l'Allemagne, on remet en cause l'état social allemand tel qu'il a été mis sur pied par un certain Bismarck. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a eu un état social qui n'est pas comparable à l'état social français qui a été mis en place après la guerre en 1945, avec la sécurité sociale et tout. C'est Bismarck, le chancelier allemand, qui, dans les années, quand il était en plein pouvoir, a fabriqué l'état social avec des lois sociales, des aides pour les chômeurs, des aides pour les familles, etc. Parce que pourquoi il faisait ça, Bismarck ? Parce qu'il disait, si je veux avoir un pays puissant, il faut que ma classe ouvrière soit bien traitée. Alors il n'était pas pour la classe ouvrière, mais il disait, si la classe ouvrière est maltraitée, elle travaille mal, elle est mal formée, elle est mal payée, etc. Et donc pour avoir une économie prospère, y compris si elle devait déboucher sur l'armement du Troisième Reich, ça c'est autre chose, il faut une classe ouvrière qui soit bien encadrée socialement, qu'il y ait des moyens, qu'il y ait une politique sociale. C'est ça. Alors rendez-vous compte de ce qui se passe. Monsieur Merz est en train d'ensevelir un siècle d'état social allemand. Rien que ça. Tout ça pour aller faire la guerre à la République russe, qui n'est pas capable de faire probablement. Et je suppose qu'il y aura des réactions petit à petit dans l'opinion allemande, on va voir ça. Pour les autres, je ne parle pas de Mme Meloni. Alors Mme Meloni était là, mais en fait, elle a tout de suite déclaré que l'Italie n'enverrait personne. Donc elle est là pour dire il faudrait soutenir l'Ukraine, elle est là pour accueillir, recevoir Zelensky chaque fois qu'il vient faire un petit tour à Rome, mais pas plus que ça. Et elle a dit, parce qu'elle est face à une situation politique qui est assez préoccupante, donc elle a dit, mais moi j'y vais pas. C'est bien de soutenir l'Ukraine, mais moi j'y vais pas. Puis encore, le Finlandais, bon, mange des Russes à tous les repas, donc n'en parlons pas. Et Madame von der Leyen est quand même un peu mal à l'aise parce que sa folie guerrière est en train d'être un peu contestée, au point qu'il y a eu une plainte de députés européens qui vient d'être présentée contre elle pour la dilapidation des fonds de la Commission européenne. Donc, elle est fragile. Alors, elle avait passé l'obstacle d'un vote de défiance devant le Parlement européen, mais sa situation s'aggrave, c'est-à-dire qu'elle n'est plus prise au sérieux. Et vous allez voir qu'il n'y a pas qu'ici qu'elle n'est plus prise au sérieux, car au début du, dans les derniers jours de juillet, il s'est tenu, je voulais le citer au passage, une réunion Union européenne-Chine à Tianjin, donc avec une délégation de l'Union européenne, donc de la Commission principalement, qui vient pour discuter des relations. Alors ce n'était pas la première fois, je crois que c'est tous les deux ans les sommets, comme on dit, Union européenne-Chine. Et il se trouve que là, d'une part, on a mis un certain temps à avoir la date, et puis finalement, quand on a vu les reportages télévisés, la délégation de l'Union européenne est sortie d'un minibus, a été accueilli par un appariteur à la sortie, à l'entrée du palais présidentiel. Et on a vu ensuite une séance où le président chinois est venu saluer. Alors là, c'était le grand honneur, il est venu saluer. Et puis ensuite, il a passé le bébé à son premier ministre pour parler de la situation. Alors là, l'Union européenne a été d'un ridicule achevé. C'est-à-dire que d'une part, elle a été reçue mal. Alors, on se souvient que dans le genre des mauvaises réceptions, Madame von der Leyen, quand elle était venue dans les bagages d'Emmanuel Macron, elle était repartie comme un touriste. On l'avait vue à l'aéroport partir toute seule. Là, c'était pas tout à fait aussi humiliant, mais pas mal. Et là, ce qui s'est passé, c'est que au niveau, alors il s'agissait de relations surtout commerciales. On le sait, il n'y a aucun honte à le dire, il n'y a pas de difficulté. Le commerce extérieur entre l'Union européenne et la Chine, il est déséquilibré au profit de la Chine. Ça, tout le monde le sait, il est très très largement déséquilibré. Bon, alors, il pourrait y avoir une solution stupide consistant à dire je mets des droits de douane, enfin, je fais. Il n'y a pas de droits de douane entre la Chine, une exportation chinoise. Il n'y a pas de droits de douane, il n'y en a pas à l'arrivée et tout. Donc, il n'y a pas de bricolage à la Trump par rapport à dessus. C'est la réalité des économies, c'est la réalité des niveaux de salaire, c'est la réalité des deux économies, l'une face à l'autre. Bien. Et donc, l'Union européenne n'avait pas grand-chose à dire, puisque la Chine a dit, mais quand vous voulez investir, si vous voulez acheter chez nous, mais nous, on achète chez vous un certain nombre de choses, hein, y compris bon, du cognac, du vin, du fromage, enfin, mais pas que ça, ils achètent des trucs. Mais on achète ce qui est achetable, ce que vous savez faire, c'est tout. Il n'y a pas d'obstacle à notre commerce avec vous, il n'y a aucun obstacle. On est ouvert avec vous comme avec tous les pays du monde. Mettez-vous bien ça dans la tête. Alors une fois que ce message-là a été passé, et la délégation européenne le savait, la délégation européenne s'est livrée à une espèce d'exercice stupide dont elle a le secret, mais pas qu'elle, consistant à dire « Ah oui, mais les droits de l'homme en Chine, ça va pas ». Bon, allez, ok, alors on commence sur ce chapitre-là. Alors là, ils se défoulent, ils y vont gaiement, sur les droits de l'homme. Ensuite, deuxième aspect, c'était plus pervers, il faudrait que vous vous fâchiez avec la Russie. Alors, j'imagine le président chinois, il cause toujours mon lapin. Hein. Nous, on fait ce qu'on a à faire, ça ne te regarde pas. Toi, tu fais ce que tu veux, nous, on fait ce qu'on veut. En politique internationale, on n'a pas de conseils à recevoir de Mme von der Leyen sur les relations avec la Russie. Bon, donc, ils se sont couverts de ridicule. Ils se sont couverts de ridicule. Et donc, l'Union européenne a été ridiculisée. Gentiment, hein, mais c'était le seul symbole du minibus, les réponses en disant « mais nos rapports avec la Russie ne vous regardent pas », etc. Ils sont rentrés ben, sans avoir grand-chose à annoncer, puisqu'ils n'avaient rien obtenu, mais en fait, ils ne demandaient rien. Ils ne demandaient rien, il n'y avait rien demandé. Et à telle enseigne que les Chinois peuvent s'amuser, puisque dans les jours qui ont suivi, vous connaissez tous les grands constructeurs automobiles chinois, je parlais en premier de BMW. Bon, BMW a une usine en Chine sur la base classique, c'est-à-dire investissement 50-50 avec un capitaliste chinois qui est là, qui met son nom. Et en fait, aujourd'hui, la Chine a accepté que BMW mette 75%, qu'elle prenne 25% de plus du capital de la filiale commune sino-allemande, sur la base de toute façon, vous vendez beaucoup de BMW à nos riches Chinois. Eh bien, allez-y, faites comme chez vous. Nous, de toute façon, des voitures, on sait en faire. On en exporte beaucoup plus que vous. Donc, allez-y, vous êtes chez vous. Et ils ont fait la même chose qu'avait fait Mercedes, je crois, il y a 2 ans, c'est-à-dire l'usine Mercedes qui est installée en Chine, ben, elle a maintenant comme cible le marché chinois. Et donc, elle peut avoir autant de capitaux qu'elle veut. Il y a bien un Chinois qui est au conseil d'administration. En fait, ça ne gêne pas parce que ça ne fait surtout pas de l'ombre aux constructeurs automobiles chinois qui sont devenus parmi les plus puissants du monde, en particulier dans les véhicules électriques. Vous voyez, donc les rapports sont compliqués. Et le grand capital allemand, je pense qu'il est en désaccord. Il ne peut pas supporter ce que dit Mme von der Leyen sur « lâchez-vous avec la Russie », etc. Le grand capital allemand, il dit « là, il y a un marché où je peux vendre. C'est un marché porteur. C'est un marché qui se développe. Il y a 1,4 milliard de Chinois. Et moi, je prends les devants et j'investis en Chine abondamment. Et la Chine me laisse faire. On ne m'ennuie pas. Il n'y a pas de règlement xénophobe, etc. » Voilà la réalité des relations, c'est-à-dire les capitalistes européens aujourd'hui savent qu'effectivement ils peuvent gagner de l'argent en Chine, qu'on leur laissera en gagner s'ils produisent des produits qui sont vendables et de bonne qualité, et qu'on ne va pas faire d'entrave. Il n'y a aucune entrave sur l'activité des Européens sur le sol chinois. Activité économique, j'entends bien. Et donc ce sommet Union européenne-Chine a permis de bien faire la lumière là-dessus, c'est-à-dire... ridicule de la position de l'Union européenne qui venait pour donner des leçons de politique, et les Chinois disaient mais vous êtes, c'est un sommet économique et en économie tout est possible, on vous interdit rien, on vous accueille, vous pouvez investir, on fait la même chose chez vous, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Et ça, la Chine ne fait qu'expliciter sur le cas de l'Europe son ouverture au commerce international en disant je ne veux aucun obstacle au commerce international, les obstacles sont néfastes. Ça, c'était la première paire de claques. Et la deuxième paire de claques, ça a été donc la réunion de Washington, et qui avait été précédée, alors dans les jours suivants, alors pauvre Madame von der Leyen, je vais presque verser une larme. Non, il ne faut pas me dire la pauvre, parce que là, dans les jours suivants le sommet UE-Chine, il y a eu un sommet UE-États-Unis sur les questions commerciales. Et alors, capitulation totale de l'Union européenne. Alors, il faut savoir que Trump a exigé et obtenu d'abord qu'il y ait des droits de douane, hein, dans les deux sens, bon. Et alors que bon, les États-Unis importent plus qu'on importe de chez eux. Il a obtenu que les entreprises européennes investissent 600 milliards de dollars sur le territoire des États-Unis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse entreprise européenne, qu'elle soit allemande, française, italienne ou tout ce qu'on veut, ou hollandaise, va devoir, si elle a un investissement à faire, le faire en priorité sur le sol des États-Unis. Bravo comme maintien de l'indépendance européenne. Il a obtenu, et là c'est une capitulation en race campagne, il a obtenu que les Européens achètent pour 750 milliards de dollars de produits pétroliers aux États-Unis, au prix où ils sont, c'est-à-dire c'est les plus chers du marché. Il faut savoir que le gaz de schiste et le pétrole de schiste sont largement au-dessus des prix du marché international des carburants. Bon, donc l'Union Européenne s'est fait voler au coin d'un bois. Elle a totalement capitulé. Et on ne voit pas comment ceux qui ont participé à ce genre de négociations vont pouvoir se justifier, si ce n'est qu'ils sont face à quelqu'un auquel ils vouent un respect non mérité, qui exige et qui impose ses choix, et qu'ils n'ont plus aucune défense, n'est même plus aucune analyse collective. Alors, les analyses collectives, il n'y en a peut-être pas parce qu'elles s'élaborent autour de Mme von der Leyen, mais il n'y a plus, et c'est là-dessus que je vais insister, il n'y a même plus d'analyse nationale. C'est-à-dire que je pense, forcément, il y a dans les coulisses du patronat français des gens qui disent « mais là, on a capitulé totalement, et on va investir là-bas, on n'a plus d'argent pour investir ici. Ici, on nous dit juste de bloquer les salaires et de licencier, et on va mettre tout notre argent là-bas. Où va-t-on » C'est-à-dire qu'ils voient la condamnation même du capitalisme national. Il y a encore quelques grands groupes qui existent, le CAC 40, etc., qui se disent « dans ces conditions, s'il faut tout investir aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait encore ici ?» Donc, vous voyez, un espèce d'avenir très, très sombre. Alors, je ne fais pas l'apologie des capitalistes français, mais je rappelle qu'aujourd'hui, on est dans un régime capitaliste et que ces capitalistes français, ils nourrissent quand même un certain nombre de prolétaires français. Et que s'ils sont tous aux États-Unis, ils nourriront plus personne. Bon, c'est ça la ligne Macron, qui est la ligne von der Leyen et tout. Donc, une ligne de faillite. Donc, paire de claques à Pékin, paire de claques à Washington. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste l'ogre. Hein, il reste ça. Bon, donc, extrême déliquescence de la politique française. Et donc, mon interrogation, et je le disais tout à l'heure, c'est que les manifestations contre les attaques, contre la politique d'austérité, sont insuffisantes. Elles sont bienvenues, mais elles sont insuffisantes si on ne relie pas à cette capitulation par rapport aux grands frères américains et par rapport au fait que dire « Ah, vous voulez dépenser des choux, allez-y, dépensez chez Zelensky, etc. » Alors, à propos de Zelensky, ça me revient maintenant, c'est peut-être pas tout à fait le moment, mais il y a un ancien dirigeant qui est dans des groupes d'extrême droite nazie qui s'appelle le groupe droit. Pravi Sector, ça s'appelait comme ça. Hein. Donc, qui est installé dans la région d'Odessa, qui fait marcher un petit atelier où il fabrique des pièces pour les drones. Il n'est pas au combat sur le front. Il a fait une interview cette semaine. Où il a dit que si M. Zelensky ne suit pas nos objectifs, c'est-à-dire de ne rien céder à l'adversaire russe, M. Zelensky est un cadavre. Il l'a dit. Alors, oui, sera un cadavre. Hein. Bon, donc c'est tout à fait clair. Alors, on avait compris depuis longtemps qu'effectivement, Zelensky, s'il n'a pas adhéré à un parti néo-nazi, il est encadré très très sévèrement par ce genre de personnages, hein, que ce soit le bataillon Azov ou secteur droit, etc. Et que là, pour la première fois, on a un officiel qui dit devant des caméras, si M. Zelensky ne nous obéit pas, il se transformera en cadavre. Vous avez compris? T'as compris, Volodymyr? Hein, c'est ça le message. Alors, tout le monde avait compris, mais c'est dit. C'est dit, donc ça devrait aussi faire réfléchir les gens qui veulent soutenir M. Zelensky. Roselyne?
Oui, j'ai pas compris, Bernard. C'est si il ne cède pas, et s'il n'obéit pas à la demande de ce groupe des trois droits, qui voudrait qu'il cède.
Non, surtout pas. Non, non, il faut surtout pas. Non, ne rien céder, ni la Crimée.
Ah, ok, j'avais compris le contraire, c'est pour ça que je ne comprenais pas. D'accord.
Mais il dit, soyez ferme sur la position, on ne lâche rien. C'est-à-dire, il n'y a rien à négocier avec la Russie, c'est ça que ça veut dire, il n'y a rien à négocier. Hein. La Russie arrête, hein, elle cesse le feu, elle rentre à la maison, hein, et donc c'est terminé. Si vous faites autre chose, vous êtes mort. Ah, bon. Bon, ça a l'avantage de clarifier. Non, c'est bien ça. Hein. Donc, c'est la guerre... ne compte pas, ce qu'on a perdu, ça compte pas, on ne lâche rien. Hein, donc, et c'est la position que Zelensky prend très très officiellement. Hein, on ne lâche rien, bon, on fait comme s'il ne se passait rien sur le terrain. Ça, je voulais le citer parce que c'était la première fois, à ma connaissance, qu'on avait une affirmation si claire devant des caméras du monsieur qui disait « Si tu obéis pas, tu es mort, c'est tout. Hein, tu as compris. Hein. » Donc, c'est des procédés mafieux, de bandes organisées qui s'appliquent. Donc, quand les Russes disent « On a affaire à des néo-nazis », ils n'ont pas tout à fait tort. C'est bien comme ça que ça fonctionnait et que ça continue à fonctionner. Voilà. Donc, un panorama sur cette situation. Donc, je synthétise... une tentative de Trump pour essayer de se sortir du guépier ukrainien en disant ben, « finalement, il faudra bien ». Trump l'a dit d'ailleurs, lui-même, il a dit « il faudra peut-être faire des compromis, alors des échanges de territoires ». Il ne s'agit pas d'échanges, il s'agit de reconnaître qu'il y a des territoires qui sont occupés par des populations qui ont décidé par vote de rester russes et de devenir russes, et bien elles vont le rester, et puis on n'en parle plus. Bon. Après, pour d'autres, on verra. Il n'y a rien de plus de ce côté-là. C'est tout à fait clair, mais manifestement, il y a dans l'appareil d'État aux États-Unis, alors on appelle ça l'État profond, je ne sais pas si c'est l'État profond, mais même, je pense que Rubio lui-même n'est pas très très clair là-dessus, il y a sûrement des militaires qui ne sont pas d'accord là-dessus non plus, et puis il y a les démocrates qui ne sont pas morts, il y a encore des démocrates qui sont là pour dire « mais non, il fallait continuer comme Biden, continuer à avancer, continuer à progresser, etc. » Et ça amène à des annonces un peu bizarres, comme il y a eu ces derniers jours, disant que les États-Unis vont fournir des missiles de moyenne portée à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse tirer sur Moscou. Alors, ça a été très précis, c'est un modèle de missile, je ne rentre pas dans les détails, mais dont la portée est de 500 km. Donc, depuis la frontière actuelle de l'Ukraine, quelque part vers Kharkov, par là, on peut effectivement détruire Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est à peu près pareil. Donc, vous avez ça qui va rester pendant un certain temps, c'est-à-dire qui est le reflet de l'incertitude de la position des États-Unis, qui voudraient bien se sortir de ce mauvais pas où Biden les a mis. Alors ça, c'est vrai que c'est Biden, il a raison, d'une certaine façon, Trump, c'est Biden qui m'a mis là-dedans. Le problème, c'est que Trump, il est quand même à la Maison-Blanche depuis 8 mois maintenant. Et donc, s'il avait voulu vraiment changer de politique par rapport à celle de Biden, il avait le pain et le couteau pour le faire. Or, il n'y arrive pas. Même si ça le démange, il voudrait bien, mais il n'y arrive pas parce qu'effectivement, il est encerclé, il n'est pas maître de ses mouvements, etc. Il y a tout ça qui se joue. Donc il faut bien que nous ayons conscience que les gouvernements européens sont à la remorque d'un gouvernement lui-même incertain, dangereux par les énormes moyens militaires qu'il a, et instable dans sa ligne politique, puisqu'il y a une ligne annoncée, puis il y a une ligne réalisée, puis ça change, ça bouge. Voilà. On entre dans cette période-là qui va être une période difficile. Mais c'est ça qu'il faut que nous ayons conscience, parce que le plan Bayrou, l'austérité en Allemagne, l'austérité partout, c'est lié aussi à cette insécurité politique globale qui fait que autant prendre de l'argent dans les poches des Français tant qu'il y en a, après on verra ce qu'on en fait. Donc c'est une politique à courte vue, mais attention, petits-enfants, ne dormez pas en paix, l'ogre est là, il vous observe. Bien, ces développements effectués, je vais aborder quand même un certain nombre de sujets qui sont liés puisque je vais revenir sur la situation, disons, au Moyen-Orient. On va faire une coupure, vous allez voir, on va changer de style, mais refaire un peu d'histoire, parce que tu vas trouver Roselyne sur la pige, tu vas retrouver un extrait d'un discours d'une conférence de presse du général de Gaulle, qui est, je crois, du 27 novembre 1967, où il fait le bilan de la guerre des Six Jours, qui, je le rappelle, se fait au printemps, une guerre des Six Jours qui se termine par la défaite très très rapide des Arabes, l'invasion du Sinaï, etc. Tout ça est connu, mais on l'écoute parce que ça redonne de la profondeur historique à la question israélo-palestinienne.
Sur le conflit actuel, et je suis prêt à y répondre. L'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là, l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël, soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait, même chez beaucoup de juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles n'allait pas entraîner d'incessantes, d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. En dépit du flot, tantôt montant, tantôt descendant, des malveillances qu'ils provoquaient, qu'ils suscitaient plus exactement, dans certains pays, à certaines époques, un capital considérable d'intérêt et même de sympathie s'était formé en leur faveur, et surtout, il faut bien le dire, dans la chrétienté. Un capital qui était issu de l'immense souvenir du Testament, nourri à toutes les sources d'une magnifique liturgie, entretenue par la commisération qu'inspirait leur antique malheur et que poétisait chez nous la légende du juif errant, accru par les abominables persécutions qu'ils avaient subies pendant la Deuxième Guerre mondiale, et grossi depuis qu'ils avaient retrouvé une patrie par les travaux constructeurs, travaux constructifs, et le courage de leurs soldats. C'est pourquoi, indépendamment des vastes concours en argent, en influence, en propagande que les Israéliens recevaient des milieux juifs d'Amérique et d'Europe, beaucoup de pays, dont la France, voyaient avec satisfaction l'établissement de leur État sur le territoire que leur avaient reconnu les puissances, tout en désirant qu'ils parviennent, en usant d'un peu de modestie, à trouver avec ses voisins un modus vivendi pacifique. Il faut dire que ces données psychologiques avaient quelque peu changé depuis 1956. À la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître, en effet, un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. Et ensuite, l'action qu'il menait pour doubler sa population par l'immigration de nouveaux éléments donnait à penser que le territoire qu'il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu'il serait porté, pour l'agrandir, à utiliser toute occasion qui se présenterait. C'est pourquoi d'ailleurs la Ve République s'était dégagée vis-à-vis d'Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noué avec cet État. Et la Ve République s'était appliquée, au contraire, à favoriser la détente dans le Moyen-Orient. Bien sûr, nous conseillons.
Je pense que tout est dit, c'est-à-dire que ce propos donc de 1967 est d'une extraordinaire actualité, c'est-à-dire que c'est devenu un État militaire, expansionniste, hein, c'est ce qu'il dit à propos de la guerre de 1956, et ils vont chercher à s'agrandir par tous les moyens. Ce qui a été fait, et le fait que l'ONU ait commis l'épouvantable erreur de ne pas exiger la création d'un État palestinien simultanément avec l'État sioniste, ça veut dire que c'était possible, ça a été possible, ça reste toujours possible, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle à l'autodétermination du peuple palestinien. Et donc, effectivement, on le voit aujourd'hui avec l'installation donc, de l'armée israélienne dans une partie sud de la Syrie. On voit leurs objectifs quand ils vont bombarder l'Iran. C'est quand même tout à fait clair. Tout ça, l'extraordinaire fraîcheur d'esprit de Gaulle, qui a 70 ans quand il dit ça, mais il a vécu, il a compris, il a organisé, et puis il a un regard de militaire en disant, si on les laisse, avec la dynamique qui est la leur, si on les laisse faire, ils vont tout prendre. Hein, ils vont tout prendre. Et effectivement, il n'y a pas eu grand monde pour les empêcher de les laisser faire. Alors, il restait, alors, qui les empêchait? Ben, il y avait au départ les régimes arabes autour, donc ça s'est terminé avec des accords de paix avec la Jordanie et avec l'Égypte. Il y avait ensuite la Syrie, pas d'accord de paix, mais donc on a réussi à faire tomber le régime syrien. Il ne restait plus que l'Iran. Il ne restait plus que l'Iran, et c'est bien pour ça qu'il y a de ça quelques semaines, Israël est allé bombarder l'Iran. Avec le prétexte, je souligne, il ne s'agit que d'un prétexte, le prétexte de l'arme nucléaire. Madame Tulsi Gabbard, la conseillère de Trump pour les questions de renseignement, a confirmé dans les audiences qu'elle a eues devant le Parlement, devant le Congrès, qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires iraniennes. Donc il ne s'agissait pas d'armes nucléaires, ça c'était un prétexte, il s'agissait de faire tomber le régime iranien comme seul gouvernement qui s'oppose à l'appétit qui n'est jamais maîtrisé du gouvernement sioniste sur de nouvelles terres. C'est parfaitement clair. Alors ça, il s'agit d'une opération de décapitation. On l'a vu, sélection d'un certain nombre de généraux, de scientifiques, de politiques iraniens qui sont morts dans les premières heures de l'attaque israélienne qui avait été choisie, sélectionnée. Ils sont morts pour une part d'entre eux dans leur lit, alors qu'ils étaient tranquillement chez eux. Donc ils avaient un gros travail de renseignement, opération préparée de longue date, etc. Bon, tout ça est parfaitement clair. La première, ça c'était la deuxième décapitation. La première décapitation, je le souligne et je le rappelle parce qu'on va parler un peu du Liban, avait eu lieu au Liban avec la fameuse affaire des beepers, des pad pagers, vous savez, ces petits appareils là qui servaient à la communication. Alors on dit, ça sert aux communications internes du Hezbollah. Oui, mais ça servait à n'importe qui, tout le monde pouvait en acheter pour appeler son pharmacien, son médecin, son cousin, sa sœur, etc. Et ces petits appareils qui ont été trafiqués comme il faut à Taïwan, et qui, sur la réception d'un signal laser émis par un avion de l'armée des États-Unis, ont tous explosé en même temps dans la figure de ceux qui les utilisaient. Ça, c'est une opération de décapitation caractérisée. Et c'est une première du genre. C'est-à-dire, là, on a affaire à la guerre de très très haut niveau, et c'est la première fois dans l'histoire des guerres qu'on a affaire à ce type de manipulation et à ce type d'outil. Bon. Ça, c'était la décapitation numéro un, le Liban et Hezbollah. Bon. Alors, on sent que ça ne marche pas, puisqu'il y a des pressions extraordinairement fortes sur le gouvernement libanais actuel, que le Premier ministre est fragile, comme tous les premiers ministres maronites qui sont libanais, mais que le Hezbollah n'est pas décidé à rendre les armes, parce que la population, le Hezbollah sait, et la population libanaise sait très bien que s'il n'y a pas de Hezbollah, il n'y a pas d'armée libanaise. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Israël prend tout et il n'y a plus rien pour s'y opposer. Alors le Hezbollah a souffert de l'opération de décapitation. Il n'est pas décapité, il continue à être là. Et au mieux, on verra bien ce qui se passe. Est-ce que ça deviendra, le Hezbollah peut devenir l'armée libanaise officielle qui n'existe pas ou qui n'est pas capable de se battre, ou qui n'a pas les moyens. On verra. Mais de toute façon, la décapitation a raté. Donc la décapitation de l'Iran a raté, la décapitation du Liban a raté. Et donc effectivement, on a bien... Enfin, je reviens sur De Gaulle qui avait bien vu en disant mais de toute façon, il faut les arrêter. Ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Il y a une dynamique interne qui fait qu'ils veulent grandir. Et sur ce thème de « ils veulent grandir », je voudrais vous faire réfléchir sur la carte d'Israël un petit peu. Parce que, regardez bien une carte d'Israël, alors vous connaissez le dessin, etc. Mais j'insiste sur le fait que prenez conscience de l'échelle kilométrique. Rendez-vous compte que le territoire d'Israël et de la Palestine actuelle, enfin ce qu'on appelle les territoires et Gaza, c'est en gros la surface des Bouches-du-Rhône. Vous entassez des millions d'habitants sur cette surface-là, ils sont tous entassés, ils sont sans arrêt en train de se marcher sur les pieds. Rendez-vous compte qu'entre Jérusalem et Ramallah, c'est le siège de l'autorité palestinienne, il y a 15 kilomètres. C'est pas possible. Qu'entre Tel Aviv et Jérusalem, il y a 50 kilomètres. Qu'entre Tel Aviv et Gaza, il y a 80 kilomètres. C'est-à-dire que tout le monde marche sur les pieds de tout le monde. C'est pas possible. Alors, je prends pas à partie, on va y revenir avec l'interview de Georges-Ibrahim Abdallah, je prends pas à partie sur la question des deux États. Ça a été fixé comme ça par l'ONU, ça n'a pas été exécuté, donc ça a produit la situation qu'on connaît. C'est pas évident, il n'est même pas évident qu'il ne faudra pas revenir sur cette question-là. Alors, il y a des positions diplomatiques officielles consistant à dire l'ONU avait dit ça, on s'en tient à ça, mais en fait, c'est pas possible de fabriquer deux États aussi petits, aussi imbriqués l'un dans l'autre, avec aussi peu de ressources en eau, etc., sur un territoire aussi exigu. Imaginez découper les Bouches-du-Rhône entre la zone d'Arles, la zone d'Aubagne, un endroit fort où il y a le conseil départemental et tout, ça tient pas debout. Alors dans les Bouches-du-Rhône, il y a 1,5 million d'habitants. Là, il y en a 10. Donc on se marche sur les pieds tout le temps. On ne peut, la vie ensemble de deux États n'est pareil guère possible. Mais ça, je lance des réflexions pour la suite des événements. Ça, on n'en prend jamais conscience. Et c'est pour ça qu'en fait, Israël est un État artificiel, qui est à l'étroit, évidemment. Là, oui. C'est pour ça qu'il a besoin sans arrêt d'argent, d'intervention militaire des États-Unis, etc., de soutien, etc. Parce que de toute façon, il ne fonctionne pas tout seul. Il n'a pas assez de terre, il n'a pas assez d'eau, il n'a pas, il a aucune ressource minérale, il a un peu de gaz maintenant. Enfin, c'est un État qui ne peut pas fonctionner tout seul. Ça ne peut être qu'une dépendance des États-Unis. Donc ça, c'est un sujet qui reviendra nécessairement sur le tapis. Et donc, pour poursuivre dans cette réflexion-là, on va écouter donc un morceau de la première interview de Georges Ibrahim Abdallah, en français, destiné à un public français, qui a été réalisé il y a une quinzaine de jours par un journaliste libanais sur place. Alors, c'est qu'une partie, je pense que vous pouvez la retrouver facilement, mais elle était destinée à un public français. Vous allez écouter, il s'exprime très bien en français, il sait de quoi il parle. Et on a affaire avec Georges Ibrahim Abdallah, je le précise, un personnage qui pèse lourd dans l'avenir du Liban et de cette région-là du monde, vu sa capacité d'analyse.
Avec Georges, est destiné à l'opinion publique français, a priori. On va savoir... Avec Georges, on va discuter un petit peu sur la situation de Georges à l'époque, bien durant sa prison, la présence en prison, et aussi les circonstances d'avant ce qui s'est passé en 1982 et en 1984. Bonjour Georges.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous êtes libéré, ça fait 2 semaines que vous êtes là au Liban. Ma première question, quel est votre message aujourd'hui aux Français qui nous regardent?
Les Français qui nous regardent, tout naturellement, il y a lieu de leur rappeler qu'il y a un génocide en cours. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a un génocide que des millions d'hommes et de femmes peuvent le suivre au quotidien. Mmh. Jamais n'est arrivé ce scandale humanitaire devant toute l'humanité. Tout naturellement, il y a lieu de supposer que les forces vives du peuple français ne peuvent pas tolérer les génocides. Toutes les forces vives de la France, on peut compter sur eux. Le peuple palestinien et tous les prolétaires palestiniens et arabes comptent sur la mobilisation de ces forces vives. Que soient ces forces vives engagées dans des partis, ou qu'ils soient engagés dans des syndicats, ou qu'ils soient des collectifs. Tout naturellement, quand on parle des génocides, on peut le voir. On peut le voir au quotidien. On peut voir des squelettes d'enfants qui bougent et qu'on utilise la famine comme une arme, ce qui est un scandale en fait. Au XXIe siècle, il y a des lois que l'humanité a payées des millions d'hommes et de femmes, tout particulièrement l'Europe. Oui. 2 guerres mondiales pour instaurer une certaine vision de guerre. Que ce qui est permis, ce qui n'est pas permis.
Comment qualifiez-vous la position aujourd'hui de l'Europe, de la France, vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza?
Pour moi, il y a 2 Frances comme il y a 2 Europes. Il y a la France et l'Europe de l'impérialisme, le représentant du capital impérialiste qui est non seulement complice, mais qui est directement impliqué dans le génocide en cours. Et il y a les masses populaires et les forces vives de cette Europe qui se mobilisent et qu'on doit leur saluer, et qu'on salue leur mobilisation, surtout la jeunesse, qui efface la honte et instaurée par la complicité des ces gouvernements. Tout naturellement, il y a lieu d'appeler à plus de mobilisation. Le génocide atteint des niveaux inimaginables.
Mmh. Au niveau gouvernemental, c'est-à-dire le gouvernement de la France et les gouvernements à l'Union européenne, ça fait un moment, des années, qu'ils discutent toujours d'une solution à 2 États. Pour vous, est-ce que c'est la solution idéale pour ce qui se passe en Palestine?
Non, parler de 2 États ou d'un seul État, ça reste une utilisation instrumentalisée, la mobilisation en fait pour empêcher que les gens regardent ce qui se passe. Quand on parle de 2 États ou d'un seul État, il faut regarder dans la configuration de ce qu'ils proposent. Mmh. Un État ou 2 États, c'est bon, le peuple palestinien qui depuis un siècle se bat pour l'autodétermination. Mmh. Un siècle. Mmh. Un siècle où il y a une colonisation de peuplement. Et une colonisation de peuplement, l'Occident impérialiste a toute son histoire est tissée par les colonisations des peuplements avec des millions d'hommes et de femmes qui constituent le soubassement de la...
Voilà, je pense que vous pouvez le retrouver facilement sur le net. Et donc, on a affaire à des propos sensés, raisonnés, et j'insiste. Alors, c'est facile, mais en fait, c'est la réalité de faire la coupure entre les gouvernements européens et le gouvernement français, et puis la partie de la population qui voit, qui sait, qui réagit, qui devrait réagir peut-être même plus. Alors, il y a des pays où la réaction est plus forte, les manifestations sont plus fortes, mais il y a toujours une partie de la population française qui sait regarder, qui sait comprendre, qui sait analyser. Et elle n'est pas à prendre position sur tel gouvernement, tel découpage, etc. Elle dit arrêtez la barbarie, arrêtez le carnage. C'est tout. Mais c'est le message humain minimaliste que nos gouvernements oublient de proférer. C'est ça qu'il fallait tout de suite rappeler. Bien. Je voulais revenir un peu, enfin finir avec cette région-là du monde pour vous rappeler que, enfin pour vous préciser que le guide de M. Khamenei, donc le guide iranien, a fait une communication devant un certain nombre de militants et il a expliqué que l'Iran désormais se préparait à une nouvelle attaque d'Israël. Et que cette fois-ci, Israël serait accueilli avec les méthodes nécessaires pour le décourager beaucoup plus définitivement. Je précise à ce sujet que l'Iran va participer, entre autres, à un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui a lieu donc le 31 août à Tianjin. Et pour signaler ce que c'est ou rappeler ce que c'est que l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est une organisation donc créée par la Chine et la Russie de Boris Eltsine à la fin des années 90, qui démarre officiellement en 2000 et qui rassemble tous les pays donc de l'ancien espace soviétique, donc ce qu'on appelle les STAN, hein, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, et j'en passe peut-être, c'est peu importe, et qui ensuite s'est aggloméré l'Inde et le Pakistan. Ça, c'est tout à fait important, et l'Iran ensuite. Donc on a tout un bloc de pays, un bloc parce qu'il n'y a pas de solution de continuité entre eux, qui va donc de la frontière est de l'Ukraine actuelle jusqu'à l'extrémité du territoire russe, jusqu'au détroit de Béring. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde parce que quand on ajoute la population de l'Inde, de la Chine et de quelques autres, hein, on est à 4 milliards d'habitants à peu près. Ça fait beaucoup de monde et surtout c'est un bloc. Et c'est un bloc qui fonctionne. Et ce qui est à noter, parce que ça fait partie des effets de la politique de Trump, c'est que le Premier ministre indien va se rendre personnellement à ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont on reparlera évidemment mardi prochain, parce que ce sera une de sa première visite en Chine populaire depuis, je crois, 10 ans qu'il est là, qu'il est au pouvoir, et ça signe la réconciliation ou le début d'une réconciliation entre les deux grandes puissances asiatiques. Ça, c'est très, très important. Alors, ça se fait dans un cadre qui est déjà bien organisé. L'OCS, ça fonctionne. Il y a un secrétariat. Il y a des réunions de chefs de gouvernement. Il y a des réunions de diplomates. Il y a des réunions de ministres. Il y a des réunions de parlementaires. Il y a des réunions d'hommes d'affaires. C'est une structure qui fonctionne. J'insiste là-dessus pour dire que c'est pas tout à fait comme les BRICS. Les BRICS qui ont une allure de club. On se voit, on se parle, on fait des choses. Non, là, il y a une structure qui fonctionne, qui prend des décisions, qui se coordonne, qui échange beaucoup d'informations sur le renseignement, donc sur les menaces étrangères, etc. Et donc que cette structure-là, qui est donc qui a maintenant de l'histoire, qui a 20 ans, je le rappelle, 25 ans même maintenant, que cette structure-là fonctionne et que finalement tout le monde s'y retrouve, donc il va se retrouver la semaine, enfin en fin de semaine, il va se retrouver le président russe, le président chinois, le premier ministre indien, le président iranien, le premier ministre pakistanais, ben beaucoup, beaucoup de monde, et donc on va parler très sérieusement de la situation, y compris dans ce qu'on appelle l'Asie de l'Ouest, c'est-à-dire dans ce Moyen-Orient qui est en feu autour de la question palestinienne. Vous voyez que là, ça, on joue très, très gros, et j'insiste là-dessus parce que Trump a lancé une campagne anti-BRICS. Vous avez vu ça, le BRICS, c'est le diable et tout. En fait, c'est un peu facile de lancer une campagne anti-BRICS parce que les BRICS, il y a un certain nombre d'États qui tirent la charrette, j'allais dire, et puis il y en a d'autres qui suivent le mouvement, qui font un peu ce qu'ils peuvent, puis il y en a d'autres qui sont carrément inquiétant, parce que je pense par exemple, sans rentrer dans les détails aujourd'hui, à la politique étrangère ou aux interventions étrangères des Émirats Arabes Unis, je ne vois pas en quoi ça a quelque chose de progressiste, à part peut-être vendre son pétrole en yuan ou en rouble, mais encore, la Russie n'achètera pas de pétrole à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Donc la Turquie, je la mets dans le même sac, à une échelle différente bien sûr que les Émirats Arabes Unis, la Turquie va un peu dans tous les sens, avec des rêves de grandeur. Bon, là, les BRICS, c'est un club. C'est un club de gens qui échangent, qui essayent d'avoir des avenirs communs, qui pensent à l'émergence, qui pensent à la multipolarité, mais il n'y a aucune homogénéité politique dans les BRICS. Alors que dans l'OCS, il y a une homogénéité qui était à la sécurité régionale. Alors, régionale très très grande, oui, puisque ça va de la frontière russe jusqu'au détroit de Bering. Et ça, c'est la sécurité régionale, c'est-à-dire qu'on est tous solidaires par rapport à des menées extérieures. Les menées extérieures, c'est ceux des autres. C'est les Européens d'un côté, c'est les États-Unis de l'autre. C'est ça, cette solidarité élémentaire qui a été la base de l'accord, de la fabrication de l'Organisation de coopération de Shanghai, et qui le reste. Et je pense... J'anticipe à peine que ça va être un très très grand moment. Ça va être un très très grand moment où tout le monde, tous les gens importants de la multipolarité seront là et se parleront et seront en confiance les uns avec les autres. Ça, c'est une grande grande nouveauté. Donc il faudra en reparler. Je voudrais ensuite vous parler de quelqu'un qui est dans le club des BRICS, mais qui est donc un des nouveaux venus, qui est la Bolivie. Alors la Bolivie, on en a beaucoup parlé ces jours-ci parce qu'il y a eu une élection présidentielle, enfin il y a eu le premier tour d'une élection présidentielle qui a été un véritable tsunami électoral dont je vais essayer de vous donner les premières caractéristiques. Alors la Bolivie est gouvernée depuis donc 2005, ça fait donc 20 ans aujourd'hui, par un mouvement qu'on appelle le MAS, le Mouvement pour l'Alternative Socialiste, qui a été fondé par toute une série de communautés indiennes et qui a un leader dont le nom est connu qui s'appelle Evo Morales. Depuis donc 2005, ce MAS est au pouvoir et à chaque élection, même s'il y a eu des deuxièmes tours, le MAS avait entre 45% des voix autour du premier tour, quelquefois même pouvait passer. Dans les élections régionales, c'était pareil. Et donc, tout d'un coup, on a un écroulement. Je vais y revenir plus en détail. Le MAS s'écroule. Le MAS a disparu de la circulation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, quel était le phénomène générateur du MAS ? C'était un état d'apartheid qui n'avait pas de légalité, enfin, qui n'avait pas d'affichage comme en Afrique du Sud, mais en pratique, on avait une population indienne d'origine, et puis les autres, les non-indiens, qui venaient, qui étaient des latinos, qui étaient des immigrés d'Europe orientale et centrale, etc. Enfin, voilà, c'était un mélange. Un mélange, mais c'était un mélange sur une base... enfin un mélange faux, sur une base d'apartheid. C'est-à-dire que les Indiens n'avaient aucun pouvoir, ils étaient maîtrisés, ils étaient juste bons à faire le petit commerce, à cultiver dans les champs et à extraire du minerai dans les mines, à la sueur de leur front et dans des conditions extrêmement dures. Ce que le MAS a réussi, c'est qu'il a redonné leur dignité à tous les Indiens. Et ça a débouché sur ce qu'on appelle l'État pluriethnique de Bolivie, sur une constitution qui est unique en son genre, puisque, à la différence de l'Afrique du Sud, il n'y avait pas avant un écrit qui disait que les Indiens avaient accès à rien, mais la réalité, c'est qu'ils avaient accès à rien. Et donc, à partir de l'arrivée du MAS au pouvoir, les Indiens arrivent à occuper des postes, à prendre des fonctions, à pouvoir devenir fonctionnaires, etc. Et donc sont intégrés dans l'État. Et donc on a un nouvel État qui s'appelle l'État pluriethnique de Bolivie. C'est le seul au monde qui s'appelle comme ça. Il faut bien voir le progrès fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'effectivement, un Indien qui était donc voué à être rien du tout, un esclave jusqu'en 2004, aujourd'hui peut devenir, à la limite, peut devenir ministre, il peut devenir chef d'entreprise, il peut devenir tout ce qu'on veut, il peut devenir magistrat. Bon. Alors, est-ce que c'est ça ? Alors, c'est une des raisons de l'effondrement du MAS. C'est une des raisons de fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus d'obstacles à l'intégration des Indiens dans la société bolivienne, et qu'ils ont leur État pluriethnique qui est là, qui a une constitution qui les protège, etc., l'Indien peut devenir... il est plus cantonné à une classe sociale esclavagisée inférieure. Il peut circuler dans la société, il peut voler, etc. Et donc, l'attachement de l'Indien émancipé de cette façon, j'allais dire, peut diminuer par rapport au parti qu'il a rendu possible. C'est tout à fait explicable. C'est une explication sociologique un peu plus profonde. Ça, c'est, alors, il y a une autre explication qui a été beaucoup mise en avant par la presse, qui est l'explication politique pure, c'est-à-dire que l'organe dirigeant du MAS et les dirigeants du MAS se sont affrontés, et il y a eu deux courants. Il y a eu un courant donc, qui était tenu par le président actuel, le premier ministre actuel qui s'appelle Luis Arce, qui est donc du MAS aussi, et le courant historique porté par Evo Morales, le fondateur et le porte-parole du MAS. Bon. Au point que, alors, le gouvernement bolivien a empêché Morales de se présenter à travers un jugement d'un tribunal, que Morales s'est donc pas présenté, que le président sortant, donc qui est du MAS aussi, a pas voulu se présenter tellement il voyait venir la catastrophe, et donc le MAS s'est retrouvé avec un candidat qui s'est autoproclamé tout seul dans le mois précédent l'élection, c'est-à-dire qu'il n'a recueilli que, je crois, 8% des voix au total, dans l'effondrement par rapport à un parti majoritaire. Donc, catastrophe, ce MAS explose. Ce MAS explose on est face à une nouvelle... Alors, il sort du premier tour un certain nombre de candidats qui vont être au deuxième tour. Donc, un candidat, alors deux candidats de droite... Un candidat de droite dite libérale et un autre candidat de la droite dure bolivienne qui fait des coups d'État, qui est raciste, etc., qui n'a pas apprécié le MAS, qui n'apprécie pas l'État pluriethnique et tout. Donc un qui est un peu plus présentable, je ne fais pas la campagne pour lui, un peu plus présentable ou un peu moins affreux que l'autre, mais deux candidats de droite libéraux peut-être ne remettront pas en acquis le fonctionnement de la République pluriethnique, mais de toute façon auront une autre orientation politique. Je pose la question, est-ce que cette Bolivie-là, avec l'un des deux de droite, un peu plus libéral, un peu moins libéral, sortira des BRICS ? Je l'exclus pas. Je l'exclus pas, pas plus que l'Argentine n'est pas rentrée dans les BRICS parce que Milei est arrivé au pouvoir. C'est tout à fait possible. On verra pour la suite. Là où il se passe passer quelque chose d'intéressant sur lequel nécessairement on reviendra dans les prochaines émissions, c'est que finalement Evo Morales et son groupe de masse de ferme et dure a décidé d'appeler au boycott de l'élection. Et ça, c'était un saut dans le vide. C'était très courageux. Et on est arrivé à un résultat qui est exceptionnel, en ce sens qu'on est passé d'un taux d'abstention aux élections classiques qui était de l'ordre de 3% à un taux d'abstention de 20%. C'est-à-dire que l'appel d'Evo Morales et du noyau dur du MAS a engendré l'abstention de 17% du corps électoral. Alors, quand on met ce chiffre de 20% sur la table, et ils l'ont mis évidemment, ceux qui ont lancé cette opération de boycott, on a un chiffre qui est à peine inférieur au nombre de voix qui a été obtenu par les deux candidats de droite qui vont se retrouver au deuxième tour. Alors de là à dire, mais ça je n'arrive pas à faire d'hypothèse parce qu'il n'y a pas de précédent historique à ma connaissance, que 20% d'abstentionnistes vont réussir à faire basculer le scrutin dans un sens, je ne vois pas, puisqu'ils ne vont pas se présenter, puisqu'ils ne peuvent pas se présenter. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, ils sont en train de constituer une force politique disant on pèse 20%, on pèse finalement autant que les deux candidats, presque autant que les deux candidats qui vont se retrouver au deuxième tour. Il faut qu'on ait le droit à la parole. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça ne s'est jamais produit. On n'est pas un chiffre, ils ont eu 50% d'abstention, ben l'élection était nulle. Là, on ne peut pas dire qu'elle est nulle. Il y a en tout, les deux candidats de droite font 45%, ce qui n'est pas tout à fait rien. Ça veut dire qu'il y a quand même un minimum de représentation. Et donc, on a une situation très, très ouverte qu'il faudra suivre de près. Et je ne manquerai pas de le faire sur cette antenne. Mais c'était bien d'essayer d'expliquer cette situation-là très, très particulière. Voilà. Alors, je remercie Louise qui est venue sauver Roselyne qui avait un empêchement de dernière heure. Merci encore, Louise. Donc, on va tranquillement conclure, puisqu'on est presque au bout du temps. Donc, on a fait le point. Au revoir. On a fait le point donc, sur la situation au Moyen-Orient, avec donc, la profondeur que donnait... il ne s'agit pas d'être gaulliste, mais de dire ce monsieur qui savait de quoi il parlait, qui avait de l'âge, de l'expérience, il avait bien compris que Israël était un espèce de chien fou qui ne s'arrêterait jamais, sauf par la violence. Alors... Je ne fais pas l'apologie d'une guerre contre Israël, mais de toute façon, qu'est-ce qui peut arrêter Israël aujourd'hui? Alors, il y a une hypothèse, et même pas une hypothèse. La seule hypothèse sérieuse, c'est effectivement, M. Trump arrête d'envoyer des milliards de dollars, des bombardiers, des chasseurs, tous les jours, et ça s'arrête le lendemain. Mais M. Trump ne le fera pas, pour la même raison que j'ai posé tout à l'heure dans ses rapports avec la Russie, c'est-à-dire il peut avoir envie que ça se termine, pour d'autres raisons, pour y faire peut-être, voilà, je ne sais pas quoi, en Israël, des camps de vacances, mais de toute façon, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est coincé dans un appareil politique états-unien où le clan sioniste est encore trop puissant et il ne peut pas le faire taire. Alors, il est puissant chez les démocrates, mais il doit avoir les moyens de s'exprimer aussi chez les républicains. Je m'en doute. Je pense au fameux sénateur Lindsey Graham qui est de cet acabit. Donc, en fait, on a affaire à une situation qui pourrait être gelée si M. Trump avait vraiment le pouvoir. Alors, il se fait... Alors, je crois... Il pense qu'il l'a, et on a affaire à un personnage un peu hors du commun, il pense qu'il a le pouvoir, c'est ce qui amène à ce qu'il fasse des percées comme ça, je veux ceci, je veux cela. Et puis en fait, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, on s'aperçoit que ben, ça ne fonctionne pas, ça n'obéit pas, l'appareil est réticent. Et tout ça fait que la politique qu'il veut annoncer, alors qui fait effet, alors bien sûr, au niveau médiatique, on a affaire à une créature médiatique de grand gabarit, à l'évidence. Au niveau politique concret, on n'a pas grand-chose, et ce qui se passe, c'est que la désaffection d'une partie de l'électorat de M. Trump, des 70 millions de votants qu'il a eus au présidentiel, va venir du fait qu'il n'y a pas de satisfaction, parce que quand il a vendu son « Make America Great Again dans les couches populaires, dans les banlieues, dans toute une série d'endroits où la population souffrait de leurs conditions, il a été pensé que tout le monde allait, que tout le monde allait avoir un peu plus, un peu mieux, un peu plus ceci, un peu plus ça. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe en termes de couverture santé, en termes d'habitat, en termes de tout ce qu'on veut. Enfin, les conditions de la crise sociale sont là, sans parler de la drogue, et je finirai sur la drogue, puisque, en fait, la dernière chose que je voulais souligner, c'est que M. Trump, dans le même temps où il parle de paix, est en train de préparer la guerre contre le Venezuela. Alors la guerre contre le Venezuela, c'est très très simple, c'est inventer un prétexte en disant le Venezuela abrite un certain nombre de cartels de drogue, et donc comme il est, donc on dit même que Maduro lui-même est un trafiquant de drogue, c'est facile à dire, et donc je vais attaquer le Venezuela, et il joint le geste à la parole, il n'appuie pas sur le bouton, mais il fait encercler le Venezuela par toute une série de navires de l'US Navy qui sont prêts à montrer leur capacité agressive. Ça va pas se passer tout seul parce que ça met en cause indirectement un pays qui est le voisin du Venezuela, qui s'appelle la Colombie. La Colombie, c'est deux choses. C'est 6 bases militaires américaines et c'est le principal producteur mondial de cocaïne. Avec la contradiction que cela suppose, ou alors peut-être pas la contradiction, c'est peut-être précisément parce qu'il y a des bases militaires américaines que le trafic de la cocaïne se fait facilement. Je laisse ce doute aux experts. Mais donc la Colombie se trouve voisine à 2000 km de frontière commune avec le Venezuela. Si effectivement, outre l'arrivée des navires de guerre sur la côte à l'extérieur du Venezuela, il arrive des troupes américaines, elles ne pourront venir que de la Colombie, puisqu'elles y sont déjà. Donc la Colombie est dans une situation délicate, puisque son président même dit « moi je ne laisserai pas faire », mais en fait comment il ferait pour s'opposer militairement à ce que les troupes qui sont dans les 6 bases américaines sur son territoire, tout d'un coup fassent irruption et aillent chez le voisin. Il aurait beaucoup de difficultés. Bon, donc là on a un conflit, et c'est pour expliquer que M. Trump, dans le même temps où il parle de paix ici et là, est en train de préparer d'autres guerres. D'autres guerres, où là, il veut faire tomber le Venezuela. Alors, il ne faut pas aller chercher très très loin. Alors, en Ukraine, il peut y chercher des terres rares, du pétrole, de ci, de ça. Là, il cherche le pétrole vénézuélien. première réserve mondiale en quantité. Et en plus, le Venezuela a eu, j'allais dire, le mauvais goût de dire qu'il y a une partie du territoire de la Guyane britannique, qui est mitoyenne du Venezuela, qui comprend donc des gisements de pétrole encore plus importants, enfin très importants aussi par rapport à ceux qui sont déjà sur le territoire vénézuélien. Et en fait, ces gisements veulent être exploités par la société états-unienne Exxon, ou ESSO, appelez-la comme vous voulez, et Monsieur Maduro et le gouvernement Venezuela a dit que c'était chez lui, à la suite d'un accord qu'il a passé avec le gouvernement indépendant de la Guyana britannique indépendante. Donc, M. Trump est en train de mettre en place une guerre contre le Venezuela, j'y suis, et M. Trump est en train de mettre en place une guerre contre l'Iran via l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On y reviendra l'année prochaine. Grand merci à Louise. À bientôt. Je salue Sidi qui arrive. On se revoit mardi prochain à 13h30.